Accès libre.
Bonjour tout le monde, ici Benoît Racette, c'est l'heure d'Accès libre. Et il y a déjà 40 ans que la Charte des droits et libertés de la personne a été adoptée au Québec. Donc pour conclure sur cette année historique, on reçoit René Dupuis, vice-président de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Kéroul s'appuie sur la stratégie en développement durable pour faire inclure l'accessibilité des lieux et des pratiques artistiques et culturelles. Donc on reçoit Lynn Ménard, directrice adjointe de Kéroul, pour en discuter. Notre tout nouveau chroniqueur du monde du travail, Franck Bouchard, très content d'être avec lui. L'accès à l'information, vous le savez, c'est à la base de notre société. Eh bien, Yvon Provencher-Durham travaille fort pour que ça soit reconnu. On parle du plan d'action. Et si vous permettez, sur une note personnelle, je suis très mauvais quand vient le temps de crier « birdie ». Mais j'imagine que si c'était pour Mira, ben ça irait mieux. C'est pour ça que Nicolas Saint-Pierre nous parle du succès de l'Omnium dans un instant sur les ondes de Canal M. L'Omnium de Mira, 20 ans d'expérience et de financement. Pour célébrer et parler bon coup, Nicolas Saint-Pierre, directeur général de la Fondation Mira. Bonjour, M. Saint-Pierre.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous.
Ça me fait plaisir, merci de l'invitation.
Ben, c'est un plaisir. En fait, j'aimerais rappeler aux gens qui nous écoutent que ça fait déjà depuis 1981 que Mira existe. Est-ce que je peux me permettre, avant que Mira soit là, comment les gens, les personnes aveugles, faisaient pour avoir un chien guide?
Mais la plupart des gens, ce qu'ils faisaient, ils étaient pas mal obligés d'aller aux États-Unis. À l'époque, il n'y avait pas d'école au Canada. C'était seulement les Américains qui avaient des écoles de chien guide assez avancées pour servir les personnes d'un peu partout en Amérique.
Bon, heureusement que vous êtes arrivé au début des années 80. Et donc, depuis, c'est combien de personnes que vous avez pu aider?
Mais depuis le début de la création de Mira, aujourd'hui, on est rendu à 3000 chiens qu'on a attribués depuis 81. Mais ceci étant dit, c'est pas juste des chiens guides. On a environ donné à peu près autour de 1000 chiens guides depuis 81. Parce que vous comprendrez bien qu'au début, on était la première école francophone. Fait que c'est dur. C'est certain que la communauté des non-voyants du Québec, qui était contrainte d'être allée aux États-Unis, la majorité des gens ne parlaient pas nécessairement anglais, surtout du côté francophone. C'était un service qui était vraiment la bienvenue. Mais depuis ce temps-là, on a peaufiné notre technologie, puis peaufiné nos chiens, puis la façon qu'on fait notre réadaptation.
Donc, si je comprends bien, c'est pour ça qu'à l'époque, on entendait souvent des commandes en anglais quand on était en présence d'un chien guide, c'est ça, hein?
Absolument, absolument.
Okay. Ben merci d'avoir fait...
Ça, les clubs Lyon ont emboîté le pas, puis il y a une école qui a vu le jour en Ontario, à Oakville, qui est une école un petit peu plus petite que la nôtre, qui fait sensiblement les mêmes choses.
OK. Alors, situons les choses. Il existe l'organisme Mira. Il y a aussi la fondation qui a comme mandat d'amasser de l'argent pour que Mira puisse vivre. Donc, c'est pour ça que vous êtes là. Ça fait 20 ans que l'Omnium Mira a récolté 7,7 millions, dont 405 000 cette année. Bravo!
Oui, c'est absolument incroyable. Incroyable.
Et donc pourquoi vous pourquoi on a réussi à amasser autant d'argent cette année?
C'est pas la première fois que les gens de c'est Roberto Petrovito, qui est le président du conseil d'administration, qui a emboîté le pas avec Steven Mintz puis Rafik Akkad, des gens de la RBC. Puis Roberto, il a commencé à faire un tournoi, ça a commencé humblement avec des sommes amassées qui étaient aux alentours de 30 000. Moi, à l'époque, vous comprendrez bien que moi, j'ai pris la relève, mais il y a 20 ans, j'étais pas mal plus jeune, j'avais 20 ans, donc moi, j'étais plus au niveau... j'entraînais des chiens.
Ouais.
J'étais pas au niveau du financement, mais à l'époque, moi, j'étais appelé à aller dans les tournois de golf comme instructeur pour parler aux gens de qu'est-ce qu'on faisait, comment on entraîne les chiens et tout ça. Mais ce tournoi-là, évidemment, c'est un tournoi de golf, évidemment, comme beaucoup de fondations se financent avec des gens qui tournent autour de de ces personnes-là d'affaires. C'est des gens d'affaires qui se promènent d'un tournoi de golf pour la cause de un, la cause de l'autre, et puis qui se donnent un coup de main. Mm-hmm. Puis évidemment, ben Mira, avec notre expertise, avec les projets de les projets immobiliers qu'on a faits, dans le sens qu'on a les immobilisations, on a construit un nouvel hébergement pour les personnes en handicapé physique. Après ça, on a construit une nouvelle Pouponnière Clinique Vétérinaire, qui est la plus grosse clinique, pas la plus grosse clinique, excusez-moi, mais la plus grosse pouponnière en Amérique du Nord au niveau de chiens structurés, que, au niveau des écoles de chiens guides. On produit quand même 400 chiots par année là-dedans. Donc, c'était des projets de construction que Roberto a pris, puis bon, avec le tournoi, mais c'était une excuse qui était très valable pour aller solliciter de l'argent des gens qui sont capables de nous donner un coup de main.
OK. Mais donc, ce 405 000 $-là que vous avez amassé cette année, puis on entend, là, vous êtes passé de 30 000 à 405 000 en un tournoi. Là, c'est beaucoup de travail. Ouais, ça représente...
C'est 20 tournois. Hein,
20,
écouté,
oui.
Roberto, il a travaillé d'arrache-pied avec son adjointe à monter ce tournoi-là à chaque année, de faire vivre une expérience aux donateurs qui venaient faire un tour, d'être capable de leur faire comprendre, sentir la cause de Mira, de leur faire bien sentir les besoins et tout ça. Puis, écoutez, on a touché la cible vraiment à chaque fois.
Ben, écoutez, pour nous donner une idée, qu'est-ce qu'on peut faire chez Mira avec, disons, 405 000 $ environ?
Premièrement, Mira s'est rendu quand même un gros organisme, c'est-à-dire qu'on a, on emploie 100 personnes. Donc, on peut comprendre que 100 personnes qui travaillent, il y a des professionnels de la santé qui sont chez nous, j'ai des professionnels à l'entraînement des chiens, j'ai 25 entraîneurs de chiens, donc j'ai une vétérinaire, des techniciens animaux. Fait que juste faire tourner la fondation, ça prend de l'argent, évidemment, vous me comprendrez bien. Mm-hmm. Ensuite, c'est vraiment au niveau des services que tout l'argent. Fait que si on calcule, grosso modo, que la moyenne de nos chiens nous coûte 30 000 à donner, c'est-à-dire, ça, c'est le coût d'un chien guide, c'est 6 mois d'entraînement. Si on calcule le coût d'un chiot, parce que quand les chiots mènent au monde, ben là, il y a le vétérinaire, il y a les techniciens animaux qui voient à tout le bon déroulement des accouchements, puis tout ça. Après ça, pendant que le chiot il est chez nous jusqu'à 9 semaines avec la maman, après ça, d'attribuer ces chiots-là aux familles d'accueil, que ces familles d'accueil-là, ils sont bénévoles, mais ça me prend pas des professionnels d'être capables de trouver les bénévoles, d'être capables de préparer ces gens-là à recevoir un chien à la maison, puis de se faire manger leurs meubles, puis de mettre leur temps avec ce chien-là, pour être capable de bien leur parler, de les préparer à recevoir, à être propre, à avoir la vie, d'être sociabilisé le plus possible dans un...
Parce que c'est un immense
travail. Donc, c'est un gros roulement. Fait que ce 400 000-là nous permet, évidemment, d'avancer dans notre roulement quotidien pour assurer de payer nos salariés, puis de faire un travail qui est professionnel.
Ben écoutez, c'est un travail immense que de rendre la vie de ces chiens-là au mieux, mais surtout de créer cette espèce de complicité qui nous étonne. Hein. Quand on le voit, là, ça nous étonne. Puis ces chiens-là sont associés à l'intimité des gens. La sécurité.
C'est vraiment, vraiment spécial, puis que j'ai sorti, ça faisait pas longtemps. Nous donnons, depuis 3 ans, on donne 200 chiens par année. Ça veut dire qu'on a 200 personnes qui bénéficient d'un chien qui est attribué gratuitement, qui vient chez nous, qu'on les a évalués, on les a rencontrés, on a regardé si le chien ferait vraiment un effet bénéfique dans leur vie, dans leur quotidien, pour être capable de se réintégrer, d'augmenter leur autonomie, de descendre le stress. Là, je parle des programmes pour les enfants qui ont le TSA, je parle pour les chiens, pour les personnes handicapées physiques.
Donc, on entend qu'il y a vraiment beaucoup de besoins. Je dois vous arrêter. Il y a vraiment beaucoup de besoins. C'est 200... Non, mais c'est heureux. C'est heureux. Vous vendez bien cette cause-là. Elle est si importante. Puis, je voudrais pas oublier de souligner où on peut trouver plus d'informations. Donc, sur les activités de Mira ou même sur les activités bénéfices de Mira, rendez-vous sur www.mira.ca pour plus d'informations. Merci, Nicolas Saint-Pierre de la Fondation Mira.
Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.
Bonne journée. Thank you. Avec nous, Franck Bouchard, qui est ancien conseiller en formation et en emploi au CAMO, qui a une expérience peu commune. Et c'est pour ça qu'on a fait appel à lui pour parler du monde du travail des personnes en situation de handicap. Donc, bonjour, Franck.
Bonjour, merci de m'inviter.
Bien, c'est avec grand plaisir et on ne pouvait pas faire autrement, je dois vous avouer. Et surtout qu'actuellement, c'est le mois au Canada, de la sensibilisation à l'emploi des personnes handicapées.
Effectivement, bientôt, au mois d'octobre, oui. C'est ça, c'est un peu nouveau que ce mois-là donc, soit souligné pour la sensibilisation à l'emploi des personnes en situation d'handicap. C'est une nouveauté, je dirais, depuis quelques années au Canada, mais c'est pas une nouveauté. Aux États-Unis, c'est en place depuis déjà 1945, et je pense que le Canada anglais s'est inspiré finalement d'une pratique déjà en place aux États-Unis, et ça s'instaure tranquillement. Ici au Québec, disons que c'est pas très souligné, disons, on est un peu, encore une fois, un peu à part du côté du Québec. Donc, mais bon, je trouvais ça intéressant quand même de souligner qu'il y a quand même de plus en plus comme ça des manifestations un peu pour mettre de l'avant l'embauche des personnes en situation d'handicap au Canada anglais et peut-être un jour aussi au Québec, quoi qu'il s'en fait. Mais bon, ça, c'est un autre dossier.
Donc, tu as œuvré sur le terrain pendant plus de 16 ans, je le rappelle. Est-ce véritablement plus simple de trouver un emploi aujourd'hui?
J'oserais dire que c'est un peu plus simple, effectivement. Je dirais pas que c'est facile, que c'est quelque chose qu'une personne qui se cherche un emploi va trouver facilement, mais si je regarde comparativement, lorsque j'ai commencé effectivement au CAMO autour des années 2000, il y avait peut-être davantage de difficultés à ouvrir le marché de l'emploi. Je me souviens qu'à l'époque, on invoquait souvent le fait que les personnes en situation d'handicap avaient peu de formation, manquaient de scolarité, les emplois qui étaient offerts demandaient davantage de la scolarité collégiale, universitaire. Donc, c'était souvent invoqué un peu comme le fait, bien, écoutez, on serait peut-être intéressé, mais on trouve pas des gens qui ont les compétences qu'on recherche. C'est beaucoup moins vrai aujourd'hui. 16 ans plus tard, il y a eu beaucoup plus de gens qui se sont formés du côté universitaire, du côté collégial. Donc, les compétences sont au rendez-vous. Les portes sont un peu plus ouvertes qu'auparavant aussi parce que, bon, toutes sortes d'éléments sont arrivés en cours de route. Certaines obligations légales ont été mises en place auprès de certains employeurs. Il y a eu une pénurie de main-d'œuvre dans certains secteurs, difficulté à recruter, ouverture davantage donc vers des clientèles, vers des secteurs du marché du travail, du côté des personnes qui recherchaient des emplois, qu'on hésitait du côté des employeurs. Donc, je dirais que c'est plus facile qu'auparavant, plus d'ouverture. Mais c'est pas fini le travail,
effectivement. Et comment on fait d'ailleurs pour sensibiliser les employeurs à l'embauche des personnes en situation de handicap en ce moment?
Je dirais que, ben, écoutez, il y a un travail terrain qui se fait peut-être du côté, par exemple, des services d'emploi, des services d'aide à l'emploi. Un travail terrain dans le sens que ces organismes-là, bon, veulent ouvrir des portes pour les personnes qui le desservent. Donc, ils cognent aux portes, ils font un travail d'employeur à employeur. Du côté d'un travail peut-être plus large, plus important, du côté, par exemple, de campagne qui pourrait être fait par du côté du gouvernement. Je dirais que depuis quelques années, c'est un peu au ralenti. On se rappellera qu'en 2008, il y a eu la mise en place de la stratégie pour l'intégration de maintien en emploi des personnes handicapées au Québec, dans laquelle il y avait beaucoup d'actions qui avaient été mises, effectivement, pour davantage ouvrir le marché du travail, davantage faire de sensibilisation, de promotion de l'emploi. Dirons que le plan d'action qui avait été mis en place s'est terminé en 2013, et depuis cette époque-là, depuis deux, trois ans, on est un peu au ralenti de ce côté-là. On est toujours en attente.
La semaine des personnes handicapées est un peu la fenêtre pour parler d'emploi.
Effectivement, on réserve une journée, on en parle. Le gouvernement offre, disons, à tous les deux ans environ, un prix employeur engagé, mais ça reste quand même relativement modeste comme travail. Et ça vaudrait la peine de relancer un peu des activités de promotion auprès des employeurs. Et peut-être davantage aussi que les employeurs eux-mêmes aussi se sentent davantage concernés par la promotion. On a vu encore au Canada anglais des initiatives plus récentes se mettre de l'avant, Sensibility, que ça se nomme. Et c'est une initiative qui est issue des employeurs eux-mêmes qui se disent, mais écoutez, nous, on veut recruter. Je pense qu'il faut faire des efforts davantage et entre pairs, entre dirigeants d'entreprise, on veut ouvrir davantage nos portes. Il faut le prouver, il faut faire des actions. Et ça peut-être, il y a quelque chose qui serait peut-être à mettre de l'avant aussi au Québec, à promouvoir davantage ça.
Donc, peut-être en une minute, si possible, quels seraient les préjugés à l'endroit des personnes handicapées qui sont toujours tenaces chez les employeurs?
On peut appeler les mythes.
Les tabous, les mythes.
C'est un peu... ce qu'on invoque souvent, ça va coûter cher parce qu'il faut faire des accommodements, il faut faire des adaptations, ça va prendre du temps, ça va être compliqué. C'est des mythes parce que, premièrement, ça va coûter cher. Il y a des ressources financières qui sont offertes par le gouvernement. Souvent, de toute façon, les adaptations ne sont pas nécessairement ce qu'il y a de plus coûteux. Installer un ascenseur, c'est plutôt exceptionnel. Souvent, c'est d'autres types d'adaptations. C'est peut-être une chaise ou une table qu'il faut peut-être hausser, mais c'est d'autres types d'adaptations qu'il faut voir. Mais souvent, comme je le disais, il y a de l'aide financière qui est offerte. Ça va prendre du temps. C'est de savoir que s'organiser un peu plus. Peut-être que ça va prendre un petit peu plus de temps, mais une fois cet effort-là fait, la personne est parfaitement à l'aise dans son travail, parfaitement en mesure de le faire. Donc, souvent, les employeurs se donnent ça un peu comme motif, peut-être pour dire, je suis pas sûr de vouloir embarquer. Et c'est un peu de l'éducation qu'il faut faire. Nous, quand j'étais au Cameroun, on en faisait beaucoup. On avait un réseau d'entreprises. On faisait ce type d'éducation-là auprès des entreprises. On formait au niveau des ressources humaines, tout ça, pour essayer de défaire cet aspect-là, pour que les gens s'ouvrent davantage et ne voient pas ça comme une problématique, mais comme une opportunité d'embaucher des personnes.
C'est intéressant que vous finissiez sur ce mot « opportunité ». Il faut que les employeurs le saisissent. Mais merci d'être avec nous pour nous parler de ce monde du travail, Franck Bouchard.
Ça me fera plaisir.
On se revoit dans un mois.
Merci, au revoir.
On a parlé pour la première fois dans l'histoire du droit d'accès à l'information au 18e siècle. Mais mon Dieu, ça va pas bien. Au 18e siècle, donc celui des Lumières, bien, il semble qu'on n'est pas encore allumé parce que beaucoup de gens dans notre société n'ont pas encore accès à l'information. Avec nous, Yvon Provencher, agent de développement et de communication, regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain, le RAM. Bonjour Yvon.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Donc, évidemment, le RAM est l'organisme montréalais de référence pour les droits des personnes aveugles et amblyopes. Vous êtes là depuis un moment aussi, hein?
Oui, ça fait plusieurs années que je suis ici.
Bon, ben merci de nous apporter votre éclairage. Yvon Provencher, une des composantes majeures de l'accessibilité universelle, c'est les communications et l'information. Pourquoi le RAM souhaite, à ce moment-ci, consolider ses interventions en matière d'accès à l'information?
Parce que ça reste un domaine où il y a beaucoup, beaucoup à faire et parce que trop souvent, la question de l'accès à l'information est restreinte à la question de l'accès à l'écrit. Et c'est beaucoup plus large que ça. Il faut comprendre l'information dans une perspective beaucoup plus large. Alors, c'est sûr que la question de l'accès à l'écrit et aux documents est importante. Mais pour nous, l'information, c'est aussi, je vous donne un exemple très concret, quel est l'état de l'appareil que je veux utiliser? Est-ce que mon micro-ondes y affiche 2 ou il affiche 3? Est-ce qu'il affiche cuisson ou s'il affiche décongélation? Ça, c'est de l'information. C'est la même chose pour toutes sortes d'équipements, notamment. Vous donner un autre exemple. J'écoute une entrevue à la télévision. Il y a un texte traduit dans l'entrevue parce que l'entrevue est donnée en langue étrangère. Mais la seule façon que j'aurais de pouvoir comprendre ce qui est écrit, ce qui est dit, c'est de le lire. Mm-hmm. Or, je ne peux pas le lire puisque c'est écrit à l'écran. Alors, l'information, il faut le comprendre dans un sens très, très large. Et ce que le conseil d'administration du RAM a décidé de faire, c'est travailler un petit peu différemment de comment on fonctionne généralement dans les organismes communautaires. Hein. Généralement, on convoque des assemblées générales aux années, mm-hmm. on adopte des plans d'action, puis l'année d'après, ben on regarde qu'est-ce qui a été fait, puis on change d'action parce qu'on est rendu dans d'autres choses.
Mais avant que vous me parliez du comité, je trouve que vous avez dit quelque chose de super important. Évidemment, on pense souvent aux écrits, aux documents, à rendre disponibles aux personnes aveugles, mais ce que vous nous dites en ce moment, c'est que les entreprises, parce que c'est eux qui fournissent des équipements, ou même les entreprises de télécommunications, devraient aussi améliorer l'accès à l'information.
En fait, mais là, je vous donne une opinion très personnelle parce que j'ai. Bon, mais personnellement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont une déficience visuelle qui se posent la même question. C'est comment ça se fait qu'en 2016, avec les technologies qui existent, on ne soit pas capable d'intégrer dans les appareils une technologie qui soit sonore, qui parle, quelque mm-hmm. chose qui soit vocal. Et ça, ça demeure un mystère, là. Il me semble qu'on a le moyen de faire ça. Je pense que c'est plutôt une question de on y pense juste pas.
Ah oui, c'est ça.
Je pense que c'est vraiment une question de... C'est pas la réalité de la majorité de la société, donc c'est quelque chose auquel on pense pas, parce que pourtant, dans les autos, on y pense. Hein? C'est, oui. Les autos peuvent nous parler. Mais pour des usages quotidiens d'appareils domestiques, ce genre de choses-là, ben on n'y pense pas, parce que le premier réflexe, quand on veut quelque chose d'information, c'est de regarder. Je pense que c'est juste une question de... prise de conscience qu'il y a des gens pour qui ça, c'est pas possible.
Donc, ce serait un des mandats que vous donneriez comme comité. Revenons à votre manière de travailler. Vous nous l'avez dit, au-delà des manières un peu naturelles de travailler dans un organisme, décider à en nager, puis ensuite laisser Yvon Provencher faire le tour des décideurs. Vous avez donc décidé de travailler avec vos membres sur cette question-là.
Oui, parce que, bon, d'une part, c'est un dossier très, très large et la question de l'accès à l'information, c'est quelque chose qui revient très, très régulièrement dans les discussions avec nos membres, dans le vécu de ce que les gens rencontrent au quotidien. Et le conseil d'administration a décidé de se donner un horizon de 3 à 5 ans pour essayer de mettre quelque chose de beaucoup plus structuré en termes d'intervention en accès à l'information. Souvent, c'est des interventions ponctuelles. Il y a tel type de document qui n'était pas disponible, on va écrire à l'intervenant ou on va le sensibiliser à cet enjeu-là. Plus loin, c'est il y a un site web qui n'est pas accessible, donc là, on intervient auprès des gens qui sont responsables du site pour leur signaler le problème, mais ça demeure des actions, je dirais, disparates. Là, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de beaucoup plus structuré en termes d'intervention qui s'étendrait sur un horizon de 3 à 5 ans.
Okay.
Ce que le conseil d'administration souhaite, c'est obtenir la consultation de ses membres pour l'alimenter sur les éléments qui devraient être inclus dans un plan d'action qui s'échelonnerait sur un horizon de 3 à 5 ans pour avoir quelque chose de beaucoup plus défini et surtout de mieux structuré, pour éviter d'avoir à réagir simplement au cas par cas. Là, c'est quelque chose de beaucoup plus organisé comme intervention. Alors, c'est ça le défi qui est lancé à nos membres, c'est de dire, faites-nous des suggestions, proposez-nous quelque chose de très détaillé. Puis après ça, bien, le conseil d'administration va regarder ça, mais c'est sûr que le conseil va être à l'écoute des membres. Là. Donc, puis dans un organisme communautaire, bien, t'sais, on aurait pu faire le choix de dire, bon, on va organiser une rencontre, puis c'est durant cette rencontre-là qu'on va définir des choses. Là, on veut quelque chose qui s'étend sur un peu plus long.
Sur du long terme, ouais.
Comme processus, mm-hmm. pour être capable d'aboutir à quelque chose qui est beaucoup plus structurant en termes d'intervention durable en matière d'accès à l'information.
Alors, même plus de résultats, peut-être. Parce que ce que vous faites,
oui.
C'est que le RAM, ce que fait le RAM en ce moment avec vous, c'est, de, dans le fond, d'initier l'agenda, de faire l'agenda, plutôt que juste réagir aux situations, mettons, discriminatoires ou compliquées.
Exact. Et probablement que ça va être plus performant dans le sens où ça sera pas juste un plan d'action avec on aimerait ça qu'il y ait telle affaire. T'sais, c'est quelque chose qui va être beaucoup plus structuré, beaucoup plus détaillé, avec possiblement même des moyens à prendre pour atteindre des objectifs. On verra là, comment le comité veut définir son travail, mais le processus en bout de ligne devrait aboutir à quelque chose qui est beaucoup plus structurant. Alors, c'est le défi qui est lancé.
Est-ce que vous allez inviter les gens peut-être à participer à votre comité? Est-ce que vous allez inviter peut-être même nos auditeurs et auditrices, qui sont très souvent des personnes aveugles, à peut-être exprimer leurs besoins?
Alors, la démarche s'adresse d'abord à nos membres. Mm-hmm. Donc, c'est sûr qu'il faut être membre de notre organisation pour faire partie de ça. Oui, on a déjà fait des tentatives de recruter des gens. Ça a donné des résultats. Il y a encore de la place. C'est pas le comité n'est pas fermé. Alors oui, s'il y a des gens à l'écoute qui sont membres de notre organisation et qui souhaiteraient participer à cette démarche-là, ils peuvent me contacter. Je donnerai mes références à la fin.
Bien, en fait, on est déjà rendu à la fin de cette entrevue. En fait, on vous repère sur le web à raamm.org.
Exact.
Et pour le reste, on contacte souvent M. Yvon Provencher du regroupement des aveugles et amblyopes du Montréal métropolitain. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
Ça fait plaisir.
Écoutez Accès libre avec Benoît Rassette.
Alors, se terminait le 1er septembre dernier une consultation publique du ministère de la Culture et des Communications en vue de renouveler la politique culturelle du gouvernement. Un des organismes de référence, Kérol, a formulé des avis et des recommandations sur l'accessibilité en culture. Alors, on a avec nous la directrice adjointe de Kérol, Lynn Ménard. Bonjour, Lynn.
Bonjour.
Dans votre mémoire, on commence par faire un état de la situation. J'étais un peu stupéfait, mais on apprend grâce à votre étude que vous avez menée il y a quelques années que 9 % seulement des lieux culturels étaient accessibles. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que ça vous étonne, vous aussi?
En fait, nous, c'est un mandat qu'on avait eu du ministère de la Culture. On avait évalué 262 lieux culturels, 118 musées, 145 salles de spectacle. Et mm-hmm. le constat est, comme vous dites, il y a seulement 9 % qui sont accessibles, donc qui répondent en tout point au code de construction. Okay. Mais il y en avait 65 % partiellement accessibles. Alors là, on parle de lacunes mineures quand même. Ça peut être un seuil, ça peut être un lavabo qui n'est pas bien dégagé, un espace restreint dans la salle de bain. Mm-hmm. Il en reste 26 % qui étaient non accessibles.
OK. Ça, mais qu'est-ce que ça veut dire quand c'est non accessible? C'est que c'est que des escaliers, etc.?
Non accessible, mais aussitôt qu'il y a deux marches, nous, c'est non accessible. Parce que des fois, quand s'il y a juste une marche, l'accompagnateur, ça peut être plus facile. Mais deux marches, là, c'est vraiment, c'est pas accessible. C'est quand il faut qu'il y ait deux, trois personnes pour aider, là, ça marche plus. Là.
Non, on n'est pas dans l'autonomie non plus.
Souvent, c'est des salles de bain aussi qui répondent pas aux normes. Là. C'est vraiment pas accessible.
Mm-hmm. Ouais. On est obligé d'aller à la salle de bain, à la porte ouverte, des choses comme ça, c'est pas accessible. Bon.
Quand on peut rentrer.
Quand on peut rentrer, voilà. Est-ce que vous avez remarqué d'autres faits importants dans la situation actuelle pour ce qui est de l'accès à la culture ou même aux lieux touristiques?
En fait, dans les chiffres que je vous ai donnés, c'est beaucoup pour la déficience motrice. On a constaté aussi pour la déficience auditive qu'il y avait seulement 44 endroits sur les 260 qui offraient des services. Alors, ça peut être pour les musées, audio guide avec un réglage du volume. Ça peut être un système d'aide à l'audition. Alors, pour les autres déficiences aussi, il y a beaucoup de travail à faire. Et ce qu'on constate, c'est qu'il faudrait agir plus en amont des projets. Parce qu'une fois que c'est fait, quand on le dit aux propriétaires, aux gestionnaires que le lavabo est insuffisamment dégagé, souvent, il ne va pas le refaire. Mm-hmm. Alors, il faut vraiment agir plus en amont. Et nous, une des recommandations qu'on a fait au ministère de la Culture, et on va le faire à tous les ministères qui ont des infrastructures, c'est de mettre une clause d'accès conditionnalité. Okay. Alors, si vous offrez des subventions qui touchent les infrastructures, ça existe au ministère de la Culture, ça peut être au ministère des Affaires municipales ou d'autres, on va fouiller ça parce que c'est comme notre cheval de bataille, je pense, pour les prochaines années. Puis on a vu que ça existait, quand on a vu que ça existait au MAPAC pour l'éco-conditionnalité, c'est-à-dire que pour recevoir le dernier versement d'une subvention, ils doivent répondre à des normes environnementales. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne le ferait pas pour l'accessibilité? Parce que souvent, c'est ça, l'entrepreneur passe à côté. Et puis ça ferait en sorte que si c'était écrit dans le programme de subvention, bien, peut-être qu'il considérerait davantage et puis qu'il y aurait plus d'efforts qui soient faits pour que ce soit accessible.
D'ailleurs, c'est un argument de votre mémoire, ça. Vous référez à la stratégie gouvernementale de développement durable 2015-2020.
Oui.
Là-dedans, on inclut la nécessité de l'accessibilité universelle.
Oui.
Donc, à quel point il y a des liens entre cette stratégie-là et la stratégie en culture qui va arriver, là, qu'on espère voir sous le nom de Culture pour tous, si je ne m'abuse? C'est quoi le nom de la future stratégie?
Nous, c'est notre mémoire, la Culture pour tous.
Oui, mais
c'est la stratégie du ministère sur le développement durable. Bon, nous, ce qu'on dit, c'est que finalement, avec le vieillissement de la population, on n'a pas le choix que ce soit... Tu sais, souvent, on en parle du développement durable. Toutes les stratégies de développement durable doivent tenir compte des besoins de la population qui est vieillissante, dont l'accessibilité, évidemment, ça en fait partie. Alors, c'est quelque chose qu'on inclut, mais maintenant, il faut voir comment ça va s'articuler, tout ça. Mais de l'inclure, on dirait qu'il y a une ouverture là, dans tous les endroits où il y a une consultation sur le développement durable. Bon, oui, on va inclure... considération des besoins des personnes handicapées, mais il faut vraiment que dans le quotidien qu'on le voit. Puis souvent, c'est ça, c'est qu'on le voit pas vraiment. Combien de fois on va dans un nouvel endroit puis on voit encore qu'il y a beaucoup de lacunes. Alors, il y a beaucoup de...
Oui, parce que c'est ce que vous dites aussi. Vous le relevez dans les nouvelles installations. C'est étrange qu'on ne suive même pas le code du bâtiment.
Oui, c'est vraiment étrange, là. Souvent, il y a des lacunes majeures, mais nous, on va plus loin aussi quand on touche la politique culturelle, c'est que c'est pas juste la construction. Oui, il y a des lacunes, mais il y a aussi toutes les expositions dans les musées. Mm-hmm. Alors là, il faut vraiment qu'il y ait... Ça, c'est pas dans le code de construction, mais souvent, c'est une méconnaissance. Alors, il faut mieux faire connaître. Il pourrait y avoir des formations qui soient faites. Bien, nous, on en a déjà... monter une, mais on a eu juste 4 participants. Alors, il y a vraiment de la promotion à faire là, pour les musées, pour que les expositions soient plus accessibles, la hauteur des comptoirs, l'éclairage, la grosseur des caractères, l'accompagnement, que ce soit possible d'offrir peut-être occasionnellement une visite guidée qui soit en LSQ ou qui ait d'autres types là, de visites qui puissent être faites pour d'autres types de déficiences, finalement.
Donc, que tous soient inclus, au fond, pour profiter de cette culture. Il y a, dans votre mémoire, deux grandes séries de revendications, j'oserais dire. Celles qui concernent l'accessibilité des lieux et événements culturels, mais aussi celles qui concernent la pratique artistique. Pourriez-vous peut-être nous parler de ces deux dimensions-là, dans la mémoire?
Bien, en fait, c'est que il faut que ce soit accessible pas seulement pour les spectateurs, pour se rendre dans les endroits, et pas seulement en tant que consommateur, mais aussi en tant qu'acteur. Alors, il faut aussi que la scène et l'arrière-scène soient accessibles. Bon, je vais vous donner un exemple. Mon patron est allé au Casino de Montréal pour remettre un prix. C'est sûr qu'il n'était pas un comédien. Il n'a pas besoin d'aller sur la scène pour jouer. Mais sauf qu'il fallait qu'il monte sur la scène pour remettre un prix. Et la pente était vraiment trop raide. Il n'est même pas monté sur la scène. Et depuis, le casino a mis un ascenseur pour que les gens puissent monter sur la scène. Alors, ça va servir non pas seulement à promettre des prix, mais en tant que comédien, acteur, chanteur, danseur.
Oui, il y a de plus en plus d'artistes qu'on voit. Oui, Emmanuel Robitaille, la semaine dernière, faisait un événement. Il y a aussi Corpuscule Danse, avec qui vous avez déjà souvent travaillé. Quand ils proposent de la danse, c'est pas seulement dans un centre communautaire pour personnes handicapées qu'elle peut le proposer.
C'est ça, effectivement. Donc, alors, s'il y a des troupes de danse, de théâtre pour aller pratiquer, pour se donner des spectacles. Alors, il faut aussi que l'arrière-scène soit accessible. Alors, il faut vraiment y aller en tant que consommateur, mais aussi en tant qu'acteur dans le milieu culturel. C'est les deux aspects qui sont importants à considérer.
En fait, vous parlez aussi d'accès au web. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce domaine, d'après vous? Évidemment, on parle du web et de la culture ou des communications.
Oui, il y a beaucoup de choses à faire pour que les sites web soient plus accessibles. Bon, à Kérou, on œuvre en culture, mais aussi en tourisme. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de sites web aussi en tourisme. Alors, c'est important de considérer... il y a beaucoup d'éléments, que ce soit la grosseur, qu'on puisse grossir le caractère, qu'on puisse... les contrastes de couleurs. Des fois, c'est des choses très simples. Je disais l'autre fois, les critères pour qu'un site soit accessible. C'est juste de mettre des points à la fin des phrases. Ça l'aide beaucoup quand il y a des appareils de synthèse vocale. S'il n'y a pas de points à la fin des phrases, bien, il dit tout d'un coup, puis il ne fait pas de pause. Alors, c'est rien, ça, faire ça. Alors, quand on les connaît, ces éléments-là, c'est plus facile de rendre un site web accessible.
Bien, c'est pas pire. C'est quand on maîtrise mieux le français, on aide la lecture par synthèse vocale.
Ouais.
Merci de le rappeler. Ouais. Comment vous sentez la réception de la ministre à l'égard de vos demandes en accessibilité des lieux culturels, etc.?
Ben en fait, nous, quand il y a eu le bilan qui a été fait sur l'accessibilité, on avait rencontré la ministre, puis il y avait un programme d'aide aux immobilisations qui existait et qui existe toujours. Et puis, depuis qu'on a fait ce bilan-là, alors tous les travaux liés à l'accessibilité, ils sont une dépense admissible pour le programme de subvention.
Ah, ça n'existait pas avant vos représentations?
Le programme d'aide existait, mais les travaux liés à l'accessibilité, ce n'était pas écrit comme tel que c'était considéré. Mais là, le fait de l'écrire, alors quelqu'un qui veut rendre son lieu plus accessible, transformer une salle de toilette pour le rendre accessible, alors ce serait une dépense admissible. Sauf que ce qu'on ne sait pas maintenant, c'est combien il y en a qui ont bénéficié de ce programme-là. Alors, c'est une demande qu'on aura fait cette année et ils vont avoir des critères plus pour être en mesure de constater si ça a été utilisé ou pas. Si juste cet aspect-là a été considéré, mais il reste que dans l'ensemble des travaux, ça, c'est considéré dans le programme.
OK. Donc, ça, c'est quelque chose comme un gain que vous avez obtenu aussi, ou à tout le moins de sensibiliser la ministre, mais aussi les milieux culturels. Ça existe pour tout le monde. Donc, il faut le savoir, il faut le dire. Est-ce que, en toute dernière question, est-ce que vous sentez les entreprises culturelles prêtes à prendre le virage de l'accessibilité? Comment vous pourriez lire cette situation-là?
Je pense qu'il faut qu'il y ait beaucoup de... Je pense qu'il y a vraiment une ouverture. Là, on voit le Musée de la civilisation à Québec, le Musée des beaux-arts. Ça, c'est des grands musées. Mais je pense qu'il y a un pas en avant qui est fait. Puis je pense que c'est juste de faire connaître, finalement, quels sont les services qui doivent être mis en place. Alors, ça devrait être mieux connu. Nous, on a été donner une conférence à la Société des musées québécois l'an passé, mais on essaie aussi d'agir avec les regroupements de lieux culturels comme ça pour mieux les informer, les sensibiliser. On a mis des fiches techniques sur le site web de Kérou.
Oui.
Alors, en conclusion, j'inviterais les gens à aller voir sur le site web. Il y a beaucoup de fiches techniques qui donnent des informations claires. On va plus loin que le code de construction avec des illustrations. C'est encore plus clair pour montrer comment rendre un lieu accessible.
Et donc, vous me devancez pratiquement. Okay. Pour plus d'informations, rendez-vous sur kérou.qc.ca. Mais aussi, je veux seulement le rappeler, même si la période estivale est un peu terminée, on peut croiser votre incroyable bottin en ligne pour être informé sur les lieux accessibles partout au Québec.
Oui.
Je rappelle l'adresse, laRouteAccessible.com.
Oui.
Donc, rendez-vous, deux rendez-vous web pour continuer de vous suivre.
Oui.
Merci beaucoup, Lynn
Ménard. Merci.
Il y en aura des plus belles que moi, juste comme des modèles, minces comme des ficelles, mais il n'y en aura pas une qui t'aimeras plus que moi. Il y en aura des plus grandes comme les gratte-ciel, te donneront une belle, une plus belle lune de miel. Mais il n'y en aura pas une qui t'aimera plus que moi. Mais si jamais tu tombes en amour, si jamais tu m'oublies dans ce détour, au moins pense à moi et quand tu visiteras d'autres bras, et n'oublie pas qu'il n'y en aura pas une qui t'aimera plus que moi. Il y en aura des charmantes qui ne savent pas douter, qui seront envoûtées le temps d'une soirée, mais il n'y en aura pas une qui t'aimera plus que moi. Il y en aura des sensibles à fleur de peau qui sauront te bercer sans dire le moindre mot, mais il n'y en aura pas une qui t'aimera plus que moi. Mais si jamais tu tombes en amour, si jamais tu m'oublies dans ce détour, au moins pense à moi et quand tu visiteras d'autres bras, et n'oublie pas qu'il n'y en aura pas une qui t'aimera plus que moi. Je te demanderai pas de faire demi-tour, mais quand tu seras avec une autre sous tes draps, n'oublie pas qu'il n'y en aura pas une qui t'aimera plus que moi. Il n'y en aura pas une qui t'aimera plus que moi.
Heureux nouvel arrivage, c'est l'auteur, compositeur, interprète Caroline Savoie avec sa pièce « Il y en aura ». Vous le savez peut-être, mais il y a un organisme mandaté pour protéger nos lois, nos droits et libertés, et c'est la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Conséquemment, à chaque année, l'organisme présente à l'Assemblée nationale son rapport, et donc avec nous pour... fermer un peu cette année historique, puisque c'était les 40 ans de la Charte québécoise, la vice-présidente de la Commission, Mme Renée Dupuis. Bonjour, Mme Dupuis.
Bonjour, M. Rassette.
Merci beaucoup d'être avec nous. Je suis personnellement très, très heureux. Vous avez fait beaucoup pour le droit des personnes autochtones. Et maintenant, cette place que vous avez à la Commission des droits, nous donne beaucoup d'espoir, je dois vous avouer. Est-ce que j'ai le droit de dire ça?
Vous avez certainement le droit de le penser et probablement le droit de le dire aussi.
Bon, alors je disais plutôt vous, de la Commission des droits de la personne, déposiez ce précieux rapport à l'Assemblée nationale. Comment les députés ont réagi lors du dernier rapport?
En fait, il n'y a pas eu encore de réaction officielle, si vous voulez. Ce que l'on sait... c'est que le rapport sert plutôt de document de recherche pour aider les législateurs, les députés, donc, à faire leur travail quand ils analysent les projets de loi. Mais il n'y a pas nécessairement de réaction immédiate au dépôt du rapport de la Commission à l'Assemblée nationale.
OK. Entrons un peu dans les détails de ce dit rapport. Est-ce que vous pouvez nous présenter quelques faits saillants qu'on devrait entendre là maintenant?
En fait, la Commission, donc chaque année, dépose ce rapport dans lequel elle rend compte de son activité. C'est une façon de rendre compte aussi des budgets qui lui sont octroyés, c'est-à-dire à la hauteur de 15 millions de dollars par année, mm-hmm. avec les 131 personnes qui y travaillent, donc de façon régulière. Alors, on rend compte du travail qu'on a fait et on trouve un certain nombre d'informations de toutes sortes de natures. Il y a des enquêtes qu'on fait, évidemment, à la suite de plaintes qu'on a reçues. Et ce qui nous intéresse ici plus particulièrement, c'est le fait que le plus grand nombre de plaintes que la Commission reçoit dans une année, c'est les plaintes qui sont fondées sur le handicap.
Donc, et ça, ça ne se dément pas, hein? C'est d'année en année.
Ça ne se dément pas, ça reste très important. C'est entre 30 et 40 % des plaintes qu'on reçoit. Et c'est à la fois une indication qu'il y a des problèmes, mais c'est aussi, à mon avis, une indication que les gens, 40 ans après l'adoption de la Charte, mesurent qu'ils ont des droits et exercent les recours qui sont ouverts à eux pour faire respecter ces droits-là.
Donc, c'est aussi une bonne connaissance chez les personnes en situation de handicap de leurs droits qui nous explique peut-être ce haut taux de plainte.
Une bonne connaissance et puis peut-être une volonté plus affirmée de faire en sorte que des situations qui durent depuis plusieurs années, j'insiste sur les 40 ans de la Charte, parce
oui.
qu'on a voulu, dans l'année 2015-2016, souligner le fait qu'il y a une quarantaine d'années, on avait choisi de reconnaître de façon particulière des droits des gens. Donc, on est dans une question de droit. C'est pas une question de est-ce que c'est souhaitable socialement. C'est sûr que c'est souhaitable socialement, mais on a choisi de protéger ces droits-là d'une manière particulière.
Oui, en faisant cette charte, puis rappelons aux gens qui nous écoutent qu'une charte, c'est un peu au-dessus des autres lois standards. C'est sa valeur quasi-constitutionnelle. Donc, on n'y est pas avec ça, comme dirait l'autre.
Bien, c'est pour ça que j'emploie l'utilisation de le terme de protéger de façon particulière, c'est-à-dire que vous ne devez pas, dans les lois que vous faites ou dans les activités que vous faites, quand vous louez un logement, quand vous recevez quelqu'un à une terrasse de restaurant, vous devez savoir que la charte a une priorité sur d'autres lois et que vous devez accommoder, par exemple, des personnes qui ont un handicap dans la prestation de ces services-là que vous leur rendez.
L'année, vous l'avez dit, l'année a commencé en force. On avait souligné, bien sûr, les 40 ans de la Charte, mais vous avez aussi publié les résultats d'une vaste enquête sur, disons, le niveau d'accord avec les valeurs, les droits et libertés dans la société. Est-ce que je me trompe en disant que c'était le but de l'exercice?
On voulait vérifier quelle est la perception des Québécois à l'égard de la Charte. Autrement dit, est-ce qu'ils se sentent protégés par la Charte?
Mm-hmm.
Ou est-ce qu'ils pensent, par exemple, que c'est juste des groupes minoritaires qui sont protégés? Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une majorité de Québécois qui comprend très bien qu'ils sont tous protégés par la Charte des droits et libertés.
Bien.
Et on voulait savoir aussi quelle était leur perception par rapport à des situations précises. Alors, est-ce qu'ils ont une perception positive ou négative de certaines situations? Ce qui nous a frappé, c'est que les gens ont, par rapport aux gens qui ont des handicaps, ils ont une perception très positive de la mmh. nécessité de protéger leurs droits. Mais quand on creuse un peu plus, on se rend compte que la perception est meilleure chez l'ensemble des Québécois quand il s'agit d'un handicap physique.
Ah oui!
Que quand il s'agit d'un handicap d'un autre ordre, y compris tous les problèmes liés à la santé mentale ou les handicaps qui découlent, les handicaps intellectuels, par exemple.
Ouais.
Alors ça, c'est une donnée importante. Et je pense que l'idée était de vérifier, une fois qu'on s'est donné un texte comme la Charte des droits, 40 ans plus tard, où est-ce que les gens sont et quelle est leur perception. Une autre constatation qu'on a faite, c'est qu'il y a un pourcentage non négligeable de Québécois, 19 % qui considèrent que les femmes ne doivent pas avoir les mêmes droits que les hommes.
Aha.
Ce qui est quand même préoccupant de
oui.
notre point de vue.
19 % vous dites?
Oui.
Donc,
oui,
c'est une
oui.
personne sur cinq dans un restaurant, à peu près.
Presque, oui, 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 exactement. Et aussi, on s'est rendu compte qu'il y a des gens qui, en tout cas, la catégorie de citoyens pour laquelle il y a une perception négative la plus importante, c'est la catégorie des gens qui reçoivent des prestations d'aide sociale,
mm-hmm.
ce qui est aussi un sujet de préoccupation
oui.
pour la Commission, vous comprendrez.
Bien, en fait, malheureusement, souvent la perception des personnes à cité sociale est très difficile. Vous l'avez d'ailleurs souligné, hein, quand vous avez identifié plusieurs groupes, les personnes à cité sociale étaient tout juste au-dessus des manifestants, si je me rappelle bien.
Oui, c'est exact. Il faut dire que quand on a fait ce sondage-là, donc en 2015, on avait encore à l'esprit certaines manifestations du conflit étudiant. On avait encore certaines autres types de manifestations. Mais disons que c'est quand même préoccupant de penser qu'il y a des gens qui, s'ils font des manifestations pour exprimer des positions politiques, vont être mal perçus par la population.
Bien, écoutez, il y a ces défis, j'oserais dire, mais il y a des femmes, des hommes qui nous inspirent, qui se battent fort pour faire reconnaître les droits et libertés. C'est un peu l'angle que vous avez choisi pour souligner les 40 ans de la Charte. Vous avez proposé une quarantaine de... Ben, en fait, pas une quarantaine, pardon, précisément 40 lauréats qui ont été très contributifs à cet égard. Peut-être que vous pourriez nous en parler.
En fait, ce qu'on voulait, une des façons dont on voulait souligner, si vous voulez, le 40e anniversaire de la Charte, c'est qu'on est très conscient que la Commission n'est pas seule à essayer de défendre des droits et à essayer de faire protéger des droits et respecter des droits. Et c'est pour ça qu'on a lancé une vaste opération de consultation à toutes sortes d'organismes, de personnes, de députés, de très, très larges consultations pour qu'ils identifient ce qui nous apparaît, nous, comme des défenseurs des droits, donc sur le terrain, dans toutes les régions du Québec, que ce soit des personnes jeunes ou des personnes moins jeunes, que ce soit des personnes racisées ou des personnes qui ont un handicap, des femmes ou des hommes. Et ça nous a mené à ce qu'un jury indépendant retienne 40 noms, donc 40 personnes qu'on a voulu honorer de façon plus particulière à l'occasion de notre prix annuel des droits et libertés. Et c'est très important pour nous parce que ça, le message qu'on voulait envoyer, c'est qu'il y a des gens qui, avec relativement peu de moyens souvent, font un travail de fond dans la protection des droits de la personne. Et on voulait souligner qu'on le reconnaît, nous, comme commission, et que notre travail s'inscrit aussi dans le prolongement de ce que ces gens-là font sur le terrain.
Bien, écoutez, c'est une très belle mise en valeur de ce qui est positif dans le fait de se battre pour l'avancement des droits. Je vous souligne là, que, en tout cas, ça a inspiré beaucoup de gens dans nos réseaux ici. Peut-être en terminant, une bataille que vous avez menée à la commission, avec le renfort aussi, je crois, de l'organisme Le Rapplique. Vous avez réussi à obtenir quelque chose de particulier de la part de la SAQ.
Dans le cas de ce règlement-là que la Commission a obtenu à partir d'une plainte qui avait été déposée en effet par le Rapplique, donc une organisation qui est très active à essayer de faire reconnaître les droits des personnes handicapées.
Et d'ailleurs, Linda Gauthier a gagné aussi comme lauréate parmi les 40, il faut le rappeler.
Oui, c'est en effet une des personnes qui a été retenue dans les 40 défenseurs des droits. Et on a obtenu que la SAC modifie l'accès à ces succursales et les terminaux de points de vente qui soient accessibles dans une période de 3 ans. Et c'est certainement une victoire importante, c'est-à-dire qu'après qu'une plainte a été déposée, on a le comité de plainte que moi je préside avait décidé d'envoyer la cause au tribunal et finalement la SAC a accepté de régler en cours de route dans les discussions qu'on a amorcées avec la SAC. Il y a aussi d'autres règlements qui sont intervenus.
Beaucoup... Mais on n'aura malheureusement pas beaucoup le temps pour toutes les explorer. Vous avez été très actif. D'ailleurs, il faut souligner que vous avez réussi, entre guillemets, à fermer plus de dossiers cette année. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent fort chez vous. Je m'en voudrais de ne pas référer les gens à vos outils web, à ce que vous faites à la Commission des droits. On trouve aussi de la vulgarisation sur les droits. On peut même demander une formation dans nos milieux. Donc, on repère tout ça sur votre site web au cdpdj.qc.ca. On va d'ailleurs ajouter là, les liens sur la page web de notre émission. Donc, écoutez, je vous remercie beaucoup, Mme Renée Dupuis.
C'est moi qui vous remercie d'avoir donné l'occasion à la Commission de faire mieux connaître son travail.
Bien, il est essentiel et je rappelle que vous êtes vice-présidente de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. Alors, cette émission tire à cette fin. Je veux aussi remercier nos autres invités, tout aussi importants pour monter toutes ces facettes là, des droits. Donc, Nicolas Saint-Pierre, directeur général de la Fondation MIRA, merci d'avoir été avec nous. Yvon Provencher, agent de développement et des communications au regroupement des aveugles et amblyopes de Montréal métropolitain. Franck Bouchard, notre nouveau chroniqueur travail et aussi ancien conseiller en formation et en emploi au CAMO. Lynn Ménard, directrice adjointe de Kéroul. Pour réécouter l'émission ou pour les coordonnées de nos invités et de leur organisation, rendez-vous sur le site Canal M. Je tiens aussi à souligner le travail de l'équipe. Anne-Laure Janson à la recherche, Jean-Sébastien à la liberté à la mise en onde, Christiane Campagna aux communications. Ici Benoît Racette. On se retrouve la semaine prochaine et j'ose le dire, on va finir par faire ensemble un véritable accès libre.